Croix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois en direct et jusqu'à 16h pour vous écouter. Et à mes côtés, ma camarade Ombline. Bonjour Ombline.
Bonjour, comment allez-vous? Olivier, ça va bien, bonjour à tous.
Ici, comme vous le savez, on parle de vous, de vos aspirations, de vos peines comme de vos joies, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. En France, nous passons en moyenne 36 heures par semaine au travail. Pour beaucoup, ce travail n'est pas un simple gagne-pain. C'est un projet de vie, un projet réfléchi. Il arrive que cette carrière s'impose à nous ou que les parents influencent fortement le choix de leurs enfants. Il n'est pas rare de s'entendre dire « Tu seras médecin, mon fils, tu seras avocat » ou « Tu feras le même métier que ton père ». Certains ont passé leur vie à tracer un plan de carrière avant de s'apercevoir qu'il ne leur convenait pas du tout. Mais faire carrière, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi gravir les échelons? Pour rendre fier son entourage et soi-même, une personne ambitieuse est-elle nécessairement carriériste? Alors faire carrière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Le standard est ouvert jusqu'à 16h. Vous composez le 39-21, 50 centimes la minute. Je vous rappelle qu'on a sous les yeux le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Donc on vous lit également Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Anna sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Anna.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci de m'accueillir.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, donc j'ai 28 ans. Alors là, je vous appelle de Marseille. Ah. Je vis actuellement en région parisienne, mais je suis marseillaise d'origine.
Voilà. D'accord. Donc vous êtes venue faire un petit tour près des racines.
Un petit tour, auprès de à la mer et avec le soleil.
Écoutez, parfait. Alors vous, Anna, la carrière a toujours été importante. Hein. Lorsque vous étiez plus jeune, vous aspiriez à une carrière brillante. Expliquez-moi ça.
C'est vrai que j'étais plutôt bonne élève, donc je suis partie faire un bac S parce que les profs disaient faut faire un bac S. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire et puis je savais toujours pas ce que je voulais faire arriver au bac. Et on m'a dit non, mais les bonnes élèves, il faut que ça aille en classe prépa. Donc je suis partie en classe prépa, ne sachant toujours pas ce que je voulais faire. Je me suis quand même pris une grosse baffe en classe prépa parce que la réalité de la classe prépa, elle est quand même assez difficile.
Oui.
Et c'est vrai que je m'étais dit il faut que tu fasses carrière, il faut que tu aies un métier, il faut que tu gagnes bien ta vie et puis les autres ils seront fiers de toi, ta famille sera fière de toi, etc. Donc j'étais vraiment dans un projet de carrière très très important quoi.
Et c'était pour vous un moyen de vous sentir fière, que vos parents soient fiers de vous?
Oui, c'était pour qu'on soit fiers de moi, pour que mes amis, mon entourage soient fiers de moi. Et puis voilà, pour dire que finalement, j'ai existé. Enfin, vous voyez, j'ai existé oui. En tant que personne, professionnellement. J'étais entre guillemets reconnue et donc que j'ai existé.
Est-ce qu'on vous a éduqué dans l'idée d'avoir justement une grande carrière, une carrière brillante?
Non, mes parents, ils m'avaient juste dit, tu vas faire ce qui te plaît, en fait.
Oui.
Par contre, plus à l'école et au lycée, comme j'étais plutôt bonne élève, on m'avait dit, non, mais il faut absolument que tu ailles faire la prépa, la grande école, enfin, tout le tralala pour avoir un super poste, etc. Donc, je dirais que c'est plus dans le milieu scolaire, en fait, que cette idée de carrière, elle s'est ancrée.
D'accord. Et est-ce que vous avez su tout de suite ce que vous vouliez faire, vers quel domaine vous vouliez vous diriger?
Alors pas du tout, en fait, après j'en reviendrai, mais aujourd'hui je suis toujours en train de me poser la question, puisque en fait après la prépa je suis partie à la fac,
oui.
Et puis j'avais un cours de marketing, j'avais trouvé ça sympa, je me suis dit pourquoi pas continuer, donc j'ai eu un master en marketing. Donc en fait ça s'est vraiment fait, j'ai trouvé la matière sympa, j'y suis allée et puis je me suis pas posé plus de questions que ça. Et je suis entrée dans le monde du travail.
Oui.
Et puis, la grosse désillusion quand même. Et en fait, en 4 ans, j'ai fait 4 boîtes.
4 boîtes
Voilà.
Et pourquoi en fait qu'est-ce qui se passe au moment où vous changez tout le temps de boîte? Est-ce que vous vous lassez vite? Est-ce que vous dites qu'il faut toujours aller plus haut, plus loin? Est-ce que c'est pour ça que vous avez changé?
Alors, au tout début, le premier travail que j'avais trouvé, c'était un truc d'assistante commerciale. Donc, on m'avait... si vous voulez, vous êtes content quoi, quand vous avez un boulot, quand vous sortez des études. Quoi. En plus, c'était un CDI, donc c'était le Graal.
Oui.
Et puis, en fait, au bout de 2 mois, je regardais l'heure tourner tous les jours. Enfin, c'était juste l'enfer. Je me suis dit, non, mais tu peux pas rester toute ta vie à regarder l'heure. Donc, j'ai dit au revoir avant le dernier jour de ma période d'essai.
Oui.
Et puis, après, j'ai trouvé des CDD. Donc, je suis partie à Mâcon, je suis partie à Marseille. Enfin, je suis revenue à Marseille et c'était que des CDD. Et je suis partie à Paris aussi pour un CDD. Et il y avait quand même un début de lassitude qui commençait à arriver. Parce que, en fait, je travaillais dans la banque. Et puis, j'arrivais pas à m'exprimer. Parce que bon, à la banque, il y a quand même beaucoup, enfin moi ce que j'appelle c'est des strates hiérarchiques, enfin tellement vous avez de N plus 1 au-dessus de vous, et il y avait une certaine lassitude, j'avais pas l'impression de faire quelque chose, de m'épanouir, puis bon je me suis dit, bah t'es jeune, t'as le temps, quand je voyais les directeurs, je me suis dit bon allez, il faut du temps, je serai à leur place un jour.
Oui. On entend que vous manquiez, comme si vous manquiez de donner un sens à votre vie à l'époque. C'est ce qui résonne un peu dans votre intervention. Et que vous changez de boîte à chaque fois que vous éprouvez une sorte de lassitude. Et vous restez en ligne avec nous parce qu'on va voir qu'au final, votre plan de carrière ne s'est pas du tout déroulé comme vous l'aviez prévu.
Europe 1. Est-ce que votre travail, est-ce que votre carrière passe en premier? On a envie de vous entendre cet après-midi au 39-21. On vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Être calife à la place du calife au travail, ça a toujours été votre ambition? Aller plus haut ou au contraire, ça vous est bien égal de gravir les échelons, votre carrière? À quelle place a votre carrière dans votre vie? Venez témoigner sur Europe 1. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Anna qui nous expliquait que c'est sa réussite scolaire qui en partie avait conditionné son choix de carrière, mais qu'une fois arrivée dans son milieu professionnel, celui de la banque, elle s'était assez vite lassée au point de changer 4 fois d'entreprise et de chercher quel sens elle pouvait mettre dans ce travail. À quel moment, Anna, avez-vous réalisé que vous n'aviez finalement pas envie de faire ce métier?
Mais en fait, j'étais sur le point de terminer mon CDD à la banque à Paris.
Oui.
Et là, j'ai commencé à comprendre un peu l'inutilité de mon travail, puisque je vais pas y passer par 4 chemins, mais ce que je faisais, c'est que je créais des courriers et des emails que je les envoyais à des gens qui n'allaient pas les lire. Voilà, vraiment c'était ça. Ben, c'est-à-dire que en fait tous les emails et tous les courriers que j'envoyais, les clients de la banque ils les lisaient pas quoi. On avait des taux de retour qui étaient catastrophiques et même vous, est-ce que vous lisez un courrier publicitaire de votre banque?
Pas du tout.
vous voyez, ce que je veux dire c'est que là j'ai commencé à réaliser un petit peu l'inutilité de mon boulot. Je me suis dit bon, allez c'est pas la banque, cherche ailleurs. Donc, comme on voulait me reconduire mon CDD, j'ai dit non, je veux partir dans un autre secteur, je veux me donner la chance, même si c'est un autre CDD de 2 mois, je veux partir. Donc, j'ai trouvé un CDI dans le sport,
oui.
Parce que je suis une sportive à côté, donc je me suis dit, bah, super, un truc qui correspond à tes valeurs. Voilà. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai de nouveau déchanté et je me suis dit, bon, là, c'est pas possible, tu refais des emails et des courriers pour des gens qui ne vont pas les lire. Et en fait, j'ai eu le déclic parce qu'en fait, en face de mon bureau, il y avait un square. Il y avait un super square avec des arbres. On était au mois de mai. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Tu peux pas rester enfermé toute ta vie derrière un écran, 8 heures par jour, parce que la société, elle t'a dit qu'il fallait que tu restes 8 heures par jour derrière un écran, à faire des choses inutiles.
Bon, mais alors, au moment de faire une croix dans ce square, parce que c'est là, visiblement, que le déclic s'est vraiment produit, faire une croix sur son plan de carrière, est-ce que ça n'est pas trop compliqué? Est-ce que ça, vous n'étiez pas perdu, désemparé à ce moment-là?
Mais en fait, non. Parce que finalement, je me suis dit, même si j'avais peur, je me suis dit, attends, t'as 27 ans, si tu ne fais pas ça aujourd'hui, si tu ne tentes pas de faire quelque chose de différent, quand est-ce que tu vas le faire?
D'accord.
En fait, c'est plus ça qui est venu. Et en fait, c'est vrai que par rapport à la question de la carrière que vous me posiez, c'est oui, c'est vrai, j'ai toujours rêvé de faire carrière, les directeurs marketing, etc. Et puis, je me suis quand même rappelée de mon directeur marketing à la banque qui passait leur semaine en réunion. Je leur enviais pas du tout leur vie.
Dites-moi, Anna. Il y a un petit peu de Mistral aujourd'hui à Marseille, donc essayez de vous abriter un petit peu pour continuer notre conversation. Aujourd'hui, vous cherchez, vous tâtonnez, est-ce que vous avez une idée de où vous dirigeriez aujourd'hui, vous avez envie de faire?
Eh ben, alors, ça serait plutôt dans l'écologie, puisque en fait, j'ai toujours été assez sensible à l'écologie. Et puis j'ai eu le déclic un petit peu en même temps que le square, je pense. où je me suis dit pourquoi qu'est-ce que tu vas... Je suis désolée, il y a une moto qui passe.
Non, vous inquiétez pas, ça va, on n'entend pas la moto.
Ok, ça va. Donc, l'écologie, donc en fait, il y avait ce square, cette nature, où j'ai réalisé que finalement, j'allais quand même pas assez souvent dans la nature. Et puis, j'ai commencé à lire quand même pas mal d'articles. Je trouvais assez alarmant quand même sur l'état de notre planète. Et j'ai pensé que finalement, il faudrait que je fasse quand même quelque chose d'utile pour cette planète et que envoyer des courriers et des emails, c'était peut-être pas utile. Et en plus, j'ai découvert la théorie des bullshit jobs de David Graeber dans le même temps. Donc, je me suis sentie moins seule, puisque j'ai lu des tonnes de témoignages en fait qui abondaient dans mon sens, de jeunes qui se retrouvaient. Mmh. Et donc, après avoir négocié une rupture conventionnelle, donc je me suis dit, ok, maintenant tu vas te poser la question de ce que tu veux faire dans ta vie, de qu'est-ce que tu veux apporter, comment tu veux t'épanouir, et si tu gravis pas 15 000 échelons, c'est pas grave, parce que l'objectif c'est de te réaliser toi.
D'accord, donc...
Et pas là ce que la société veut, parce que c'est vrai, pour la société, il faut gravir les échelons, mais bon, finalement, si on le fait pour la société et pas pour nous, on vit pour nous, quoi.
Et puis, j'ai envie de vous dire que, tout le brio dont vous avez fait preuve lors de votre scolarité, et puis ensuite la prépa, hein, parce que vous avez quand même réalisé de grandes études, et puis que, forte de l'expérience passée dans ces banques, dans ces quatre entreprises, vous êtes sans doute enrichi d'expérience, puisque aujourd'hui, on entend que vous avez envie de donner du sens en même temps que votre carrière. Et le terme carrière, justement, aujourd'hui pour vous, est-ce qu'il n'a pas changé dans votre tête? Est-ce que c'est un mot qui vous angoisse, qui vous pousse, qui vous motive, ou c'est fini, finalement?
Alors moi, c'est vraiment un mot que pour moi, qui n'existe plus dans mon vocabulaire, en fait, dans le sens où, finalement, c'est plutôt ma réalisation personnelle. Mmh. J'ai remplacé le mot travail par réalisation personnelle. Et déjà, rien que de dire ça, ça m'apaise, ça me soulage.
Et puis, ça sonne mieux.
ça sonne mieux. Puis surtout, ce qu'on oublie, c'est que quand même, travail, ça veut dire torture, tripalium, dans l'origine du mot. Que je pense qu'on n'est pas fait, en tout cas, pour travailler. Vous l'introduisez en début d'émission 36 heures par semaine, voire plus.
Oui.
Je pense que voilà, on n'est pas fait, en tout cas, pour ça. Et qu'on n'est pas forcément venu sur Terre pour ça. Et qu'on peut se réaliser, on n'est pas obligé de faire carrière. Et aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est faire quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs, tout en gagnant ma vie, parce que pour l'instant, c'est comme ça. Mais en tout cas, donner du sens à ma vie et faire quelque chose d'utile.
Voilà. Et je pense que ce choix est le bon, parce qu'il semble vous motiver beaucoup. Donc, écoutez, je vous souhaite plein de réussite, Anna. Et merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Donner du sens dans son choix, dans le choix que l'on fait de son travail. Dans quelques instants, on va en parler avec Thomas Baligrand. Il est consultant en gestion de carrière pour l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres.
Europe 1.
Aspirez-vous à une carrière brillante ou votre carrière n'est pas l'objectif numéro 1 de votre vie? On vous écoute, vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix, le 39-21 pour nous appeler sur Twitter, hashtag Europe 1 pour nous écrire. Nous parlons aujourd'hui des carrières professionnelles, aller toujours plus haut dans l'échelle hiérarchique. Vous connaissez, on vous écoute au standard d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Thomas Baligrand, consultant en développement professionnel pour l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur Europe 1 cet après-midi.
Merci Olivier de m'accueillir dans votre émission.
Bonjour, je vous en prie. Selon une étude réalisée par l'Institut GFK, pour Monster, 70% des salariés français pensent que leur emploi n'est pas qu'un simple gagne-pain. C'est plutôt rassurant, cela. Faire carrière, c'est avant tout être en adéquation avec ses aspirations.
Oui, surtout. Enfin, j'ai trouvé moi le témoignage d'Anna extrêmement intéressant d'une part, et puis représentatif de ce que je peux entendre aujourd'hui dans mon bureau. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que le tu fais quoi dans la vie, ça reste quand même en France une des premières questions que l'on pose, et voilà bien une preuve que le travail reste un puissant marqueur social.
Oui.
Et faire carrière derrière, eh bien c'est une notion qui a beaucoup évolué et sur laquelle il est intéressant de revenir, me semble-t-il.
Et une notion qui a beaucoup évolué, mais faire carrière, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Vous qui, dans votre bureau, recevez beaucoup de personnes, justement, qu'on peut peut-être qualifier de carriéristes, quelle forme ça revêt? Quelles sont les différentes formes que ça revêt?
Alors, c'est intéressant de voir comme comme les choses ont évolué ces dernières années. Pendant très longtemps, faire carrière, hein, qui vient du mot latin carriera, c'est-à-dire on retrouve cette notion de chemin, de cheminement.
Oui.
Quand on parle de cheminement de carrière, on fait toujours référence à la liste des emplois successifs. Et avec le temps, on s'aperçoit que les choses ont bougé. Avant, faire carrière, c'était presque toujours d'abord dans une même entreprise, une même structure. Et puis on trouvait cette notion d'étape hiérarchique, de continuité. Il était courant de travailler pour une même organisation pendant toute sa vie. Il y avait aussi d'autres notions qui étaient associées, celle de loyauté qui était forte, de sécurité de l'emploi. Et aujourd'hui, on voit que c'est une notion la notion de cheminement reste présente, mais sans nécessairement cette idée de verticalité. C'est-à-dire qu'une une progression n'est pas forcément verticale, avec toujours plus de responsabilités, plus de collaborateurs à gérer. La notion d'ancienneté a perdu de sa valeur et on pense plus, je dirais, à une orientation selon les opportunités du marché ou autour de notions d'épanouissement et de sens, ce que disait Anna et qui me semble très important.
Oui, c'était exactement cela que disait Anna, parce que on entend dans votre explication que dans le fait de vouloir faire carrière, nombreux sont ceux qui veulent gravir les échelons, mais nombreux sont ceux aussi qui recherchent l'épanouissement plus que la réussite.
Tout à fait. Et ceux-là sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, les carrières linéaires, finalement, sont plus vraiment la norme. Faire carrière, c'est plus gravir ses échelons. Beaucoup de personnes que j'accompagne, que je rencontre dans mon bureau, cherchent avant tout à se faire plaisir, à donner du sens. Et ça signifie certainement pas la même chose pour tout le monde. Donc la première chose qu'on va se dire, c'est qu'il faut bien se garder de faire des généralités. Pour certains, ça peut rester gagner plus d'argent, où le salaire va être vécu vraiment comme une reconnaissance du travail accompli ou de l'expertise. Ça peut être grimper dans la hiérarchie, obtenir des titres, créer de la richesse, être le plus performant possible. Mais pour d'autres, ça va être avoir une utilité sociale, ça va être avoir un travail qui sera en phase avec des valeurs, avec des causes, ça va être d'aller chercher des perspectives qui sont en adéquation avec des envies, comme changer de région, de métier, d'entreprise. Ça peut être la recherche d'un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ça peut signifier aussi apprendre de nouvelles choses. Donc, s'il y a bien une constante, et c'est important de le souligner, chez les personnes que j'accompagne, c'est vraiment la recherche, la quête de sens, le besoin de satisfaire des aspirations, et puis un vrai besoin d'épanouissement en réalité.
Mmh. On parle de plus en plus de burn-out, par exemple, d'épuisement professionnel. Est-ce que, justement, ça ne traduit pas tout ce que vous venez de dire de la recherche aujourd'hui d'épanouissement? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au travail de voir tous ces gens qui sont dans un état de fatigue extrême?
Ça signifie surtout qu'on assiste aujourd'hui à un changement de paradigme dans le rapport à l'entreprise et au travail. J'évoquais tout à l'heure les carrières linéaires dans le temps. Enfin, on se souvient pas, moi je m'en souviens même pas, ou très peu, mais des entreprises qui récompensaient la loyauté, la fidélité de leurs salariés à travers une médaille, etc. En fait, jadis, on pouvait avoir une norme de ce qu'était une carrière. On avait des repères avec des entreprises qui avaient aussi cette même définition. Et aujourd'hui, face à la précarité du monde du travail, on est peut-être plus sur des leviers motivationnels individuels. Du coup, on a peut-être perdu une représentation sociale de ce qu'est faire carrière. Et parce que tout est devenu précaire, anticiper une carrière devient difficile. La durée d'une compétence, par exemple, est de plus en plus courte, à tel point que beaucoup peinent à se projeter au-delà d'un court terme. Et c'est notre société, finalement, qui nous impose de nous adapter à des changements constants,
à s'adapter à un monde qui bouge aussi, parce que il y a l'arrivée de beaucoup de jeunes sur le marché du travail, et ce monde évolue, et on voit que le CDI n'est plus un Graal, par exemple, aujourd'hui. On va continuer de parler avec vous du fait que aujourd'hui, c'est fini l'entreprise dans laquelle on reste toute une vie. Vous restez en ligne avec nous, Thomas Balégrand. Je rappelle que vous êtes consultant en développement professionnel pour l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Richard. Richard qui est un ancien enfant placé et qui a voulu faire carrière pour s'élever socialement.
Et le message de Anne, qui témoigne au 39-21. Anne, à 62 ans, il existe une nouvelle approche pour les personnes dont le métier n'a fait plus sens. Il s'agit de rechercher le verbe de sa vie. Ça résout plein de choses, qu'on soit bénévole, salarié ou autre. Cela vient d'une méthode japonaise, nous dit Anne, appelée Ikigai. Alors ça veut dire la raison d'être, et pour les Japonais, c'est ce qui donne envie de se lever Ikigai. Le matin. Ikigai.
Europe 1.
Où en êtes-vous dans votre carrière professionnelle, là où votre ambition vous a mené? Réussir sa vie, est-ce pour vous réussir sa carrière? C'est votre histoire, on vous écoute au 39-21. Bon après-midi sur Europe 1, vous allez retrouver Olivier Delacroix, le 39-21, c'est le standard pour venir témoigner, nous dire pourquoi votre carrière c'est votre vie, aller plus haut, être le meilleur jusqu'à parfois l'épuisement pour certains, ou au contraire, votre travail sert juste à payer les factures. Quel est finalement votre rapport au travail? On vous écoute et vous attend. Tout de suite la chanteuse LP avec Lost on You sur Europe 1. Elle composait, écrivait pour les autres avant de se lancer, la chanteuse LP, Laura Pergolizzi avec Lost on You. Premier succès donc en 2016, premier échelon d'une carrière solo pleine de promesses. C'est votre carrière professionnelle à vous. Alors, c'est votre objectif numéro un ou juste un gagne-pain? Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons Richard sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Richard.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Richard?
Alors, j'ai 49 ans. Je vous appelle d'un petit village à côté de Besançon qui s'appelle Courcelles.
D'accord. En fait, oui, excusez-moi parce que je croyais que vous alliez ajouter quelque chose. Alors, vous, Richard, pour vous faire carrière, c'est parce que vous êtes d'abord un enfant qui avait vécu dans la rue, qui a connu ce que c'était que la précarité. Et faire carrière, c'est une volonté de s'élever socialement. Expliquez-moi ça.
Alors, oui, il y a plusieurs choses. Je voulais juste, en préambule, revenir sur la présentation qui avait été faite.
Oui.
De dire, êtes-vous carriériste? Parce que faire carrière n'est pas, pour moi, être carriériste. Quelqu'un de carriériste, on peut faire carrière sans, on va dire, vouloir écraser les autres, qui est cette connotation pour moi d'être carriériste, qui va être de se servir des autres.
Carriériste, pour vous, a une connotation péjorative.
Très péjorative. Qui, je dirais que pour en avoir croisé, justement, c'est des gens qui vont, lorsque vous avez peut-être à postuler pour un poste égal ou sur le même poste, qui vont plutôt essayer de faire copain-copain et voir quelles peuvent être vos faiblesses pour s'en servir ensuite. Enfin voilà, c'est, pour moi, c'est péjoratif.
Oui.
Alors que faire carrière, justement, c'est quelque chose qui, permet, alors à force de travail, mais de pouvoir, on va dire, changer, ou en tout cas essayer, parce que peut-être qu'on ne réussira pas, parce que tout le monde ne peut pas réussir, et j'ai eu des échecs, et puis, comme tout le monde, mais va nous sortir en tout cas de ce qu'on a pu vivre. Vous disiez en préambule justement que j'ai connu la rue,
oui.
J'étais enfant battu, donc j'ai au départ eu des postes complètement inintéressants pour finir à des postes de chef d'atelier, et j'ai eu la chance, je dis bien la chance, il y a en 2001, donc il y a bientôt un peu plus de 15 ans maintenant, bientôt 20, j'ai eu la chance d'avoir un très grave accident de voiture qui fait que je suis resté cloué au lit pendant 6 mois.
Pourquoi vous dites la chance?
La chance parce que il a fallu que je rebondisse. Je me suis retrouvé avec quelques handicaps, même s'ils ne sont pas très lourds au sens... Enfin, on peut l'entendre, je ne suis pas dans une chaise, j'ai des implants dans les vertèbres, des choses qui me permettent quand même de vivre. Donc, la chance parce qu'il y a des choses que je ne pouvais plus faire.
Oui.
Je pouvais... Ces choses-là, c'était figé, c'est comme ça, je ne pouvais pas revenir dessus. C'est des choses physiques, donc elles font partie.
En tout cas, durant ces 6 mois, vous avez eu le temps donc de porter un regard, un autre regard sur ce qui allait être le reste de votre vie. Et donc, parce que vous ne pouviez plus faire certaines choses, vous alliez devoir changer.
C'est exactement ça. Me dire, ok, ça je ne peux plus, par contre ça je peux, et à partir de ça, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire? Donc, au niveau sportif, j'ai changé des choses, j'ai fait d'autres sports. Et du coup, j'ai profité pour reprendre des études sur une dizaine d'années jusqu'à obtenir un BTS, ce qui fait que je suis maintenant, 10 ans après, dans une entreprise de consultant. Je vais dans parfois même de très grosses entreprises, puisque je viens de faire une mission d'un an dans une des plus prestigieuses manufactures de montres du monde. C'est un vrai plaisir parce que ça me permet de vivre... bien, de faire bien vivre ma famille et de m'épanouir au travail parce que j'ai des postes intéressants qui me permettent de croiser des gens de tout niveau, parce que je suis en contact avec les gens des ateliers, parce que je veux surtout pas perdre ça, pour ne pas perdre d'où je viens.
Oui.
Et voilà. Et j'aimerais maintenant, à 50 ans, peut-être m'approcher plus sur des postes de gestion d'entreprise, de responsabilité d'entreprise, mais dans le sens plaisir. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est un... Quand on dit la chance, peut-être qu'à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, on va faire des choses ou mettre en place des choses qui vont payer sur les années, ou parce qu'on aura eu la bonne rencontre, parce que sans s'en rendre compte, on aura travaillé pour ça. Mais voilà, c'est dans ce sens-là, faire carrière, pour moi, c'est dans le sens noble du terme.
En tout cas, on entend complètement, c'est le sens noble du terme, et on entend combien, comme Anna, vous avez fait un choix, et combien vous avez donné du sens à ce choix. Et j'ai envie de vous dire que je pense que ceux qui travaillent avec vous doivent particulièrement apprécier le regard que vous portez sur le monde du travail. Et en étant cadre aujourd'hui, eh bien, voilà, ça doit être bien agréable d'avoir un supérieur hiérarchique comme vous qui, riche de son expérience d'avant, eh bien, peut appliquer. Et je suis certain, en vous écoutant, que vous avez beaucoup, beaucoup, vous mettez beaucoup dans vos relations aux autres, beaucoup d'humanité. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Richard. Dans quelques instants, nous serons avec Marianne. Elle a 26 ans. Elle a toujours voulu être journaliste, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a fait aujourd'hui.
Et Alain, 62 ans, témoigne au 39-21 cet après-midi. Et Alain nous dit « Mon père m'a obligé à faire du droit alors que je voulais faire des études d'histoire. J'ai accédé à des postes très importants, mais je ne fais que ce que je voulais vraiment faire depuis que je suis à la retraite. »
Europe 1.
Vous avez souhaité vous élever grâce à votre carrière, vous avez pour ambition d'atteindre des sommets, ou votre but n'est pas forcément gravir les échelons. Vous nous racontez votre histoire au 39-21, 50 centimes la minute.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Sur Europe 1, on évoque aujourd'hui la carrière professionnelle. Est-ce que votre vie a été guidée par la réussite? Quelle place donnez-vous à votre travail? Le 39-21, pour nous appeler, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Thomas Baligan. Thomas Baligan qui est consultant en gestion de carrière pour l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Thomas Baligan, je me demandais si à l'écoute de ce que vient de nous raconter Richard, aujourd'hui vouloir faire carrière, c'était se créer obligatoirement du stress, se mettre la pression, ou pouvoir, comme on l'a entendu, être dans un total épanouissement tout en étant, tout en gravissant les échelons, en tout cas en faisant vraiment une vraie carrière.
Bon, à titre personnel, moi je préfère plutôt la seconde solution. Hein. C'est vrai que si on se demande... En fait, ça avait une question, c'est quoi une carrière réussie? Comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, d'une personne à l'autre, d'un individu à l'autre, ça ne signifiera évidemment pas la même chose. Mais ce qu'on entend dans les témoignages, c'est que une carrière réussie, comme on le disait tout à l'heure, ça ne veut plus forcément dire que l'on va maîtriser de mieux en mieux son métier, ou diriger de plus en plus de personnes, ou sur un périmètre qui serait de plus en plus important. À mon sens, réussir sa carrière, c'est surtout satisfaire ses ambitions, c'est être en accord aussi avec son ambition personnelle, quelle qu'elle soit, et peut-être ressentir que l'on est au bon endroit, au bon moment.
Au bon moment. Nous allons justement en parler avec Marianne, que nous accueillons maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, je vais avoir 27 ans et je suis lyonnaise.
D'accord. Alors vous, Marianne, depuis toute petite, votre vocation, c'était de devenir journaliste. Vous rêviez de cette vie, de cette carrière?
Alors, en effet, oui. Déjà, depuis le collège, je voulais être journaliste. C'était vraiment une vocation. En fait, j'ai jamais eu de plan B. J'étais inspirée par Tintin et les grands reportages, les documentaires que je regardais à la télé.
Oui.
Et donc, voilà, je me suis naturellement dirigée vers des études de journalisme à Lyon, du coup. Et c'est en faisant ces études et à travers des nombreux stages que j'ai faits que je me suis rendu compte que la réalité de terrain n'était pas
en adéquation avec ce que vous aviez fantasmé un peu autour de cette profession.
Absolument, c'est ça. Donc le mot désillusion est peut-être un peu fort, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait s'adapter toujours et encore, Et il fallait faire évoluer notre métier de journaliste. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai découvert le marketing, la rédaction web, les réseaux sociaux et que j'ai pu décupler, développer mes compétences pour m'adapter aussi au marché.
Vous dites qu'on ne peut pas avoir de plan de carrière bien défini à l'avance, que ça peut être même une erreur. On n'est jamais sûr, au final, de ce qui va se passer dans notre vie. C'est ce que vous voulez dire ?
Absolument. Moi, jamais de la vie, je me serais dit qu'un jour, je deviendrais indépendante, parce qu'aujourd'hui, je suis indépendante en parallèle d'avoir un emploi salarié, donc j'ai deux emplois. Donc, je pense qu'avoir un plan de carrière très défini avec des objectifs, des deadlines, c'est se mettre vraiment une grosse pression, ce qui peut nous mettre des freins, en fait. Et donc, ne pas avoir de plan trop défini nous permet de sauter sur les opportunités qui peuvent arriver dans notre vie, où il faut savoir dire non, savoir dire oui parfois, oui. Et puis prendre des risques aussi, parce que si on prend pas de risques, si on donne pas la chance de tester, en fait, on ne pourra jamais savoir quoi.
Alors aujourd'hui vous êtes slasheuse, en même temps que vous l'avez dit, vous avez un second emploi où vous êtes mieux rémunérée visiblement. Quel sens ont vos ambitions aujourd'hui, votre carrière?
Aujourd'hui, ma carrière me donne un sens en fait à ma vie, dans le sens où je pense avoir réussi à trouver un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso. Oui. Ma vie pro qui se constitue de deux emplois, du coup, donc effectivement un emploi salarié où je travaille avec une équipe, il y a un travail d'équipe, c'est pour l'intérêt général, etc. Parce que je suis dans la fonction publique, je suis chargée de communication. Oui. Et en parallèle, je suis indépendante, donc je suis mon propre chef. J'ai mes clients, je fais mon bout de chemin moi toute seule avec mon entreprise. Et donc pour moi c'est un bon équilibre et c'est ça le slashing, c'est pouvoir porter plusieurs casquettes et proposer mes services à ceux qui en ont besoin en fait.
En tout cas visiblement vous les portez très bien ces deux casquettes puisque ça a l'air de totalement vous épanouir. Merci beaucoup Marianne de nous avoir appelé cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Boris. Pour lui, la carrière doit être synonyme de liberté et ce n'est pas toujours compatible avec le milieu de l'entreprise.
Laurent a 53 ans, il nous a appelé au 39-21 pour témoigner. J'ai été cadre dans un grand groupe, je l'ai quitté pour lancer un projet personnel. Si j'avais voulu gagner de l'argent, je serais resté dans mon ancien travail. Ce projet personnel, nous dit Laurent, c'est du stress, du challenge, je suis dans le doute, mais le saut dans l'inconnu est vraiment excitant. J'ai donné un sens à ma vie, même si ça fait peur. Je me lève avec la boule au ventre, mais quand ça marche, on est plus heureux.
Europe 1.
Vous avez toujours nourri une grande ambition pour réussir votre vie professionnelle, pas forcément réussir à gagner plus d'argent, comme nous dit Laurent. Vous avez fait carrière, vous êtes fier, vous nous racontez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de ces femmes, de ces hommes pour qui la carrière professionnelle est importante. Êtes-vous ambitieux, carriériste ? On continue de discuter avec vous au 39-21. Il sera l'invité exceptionnel d'Émilie Mazoyer ce soir dans Musique. Entre 20h et 22h, Sting, leader de The Police avec Walking on the Moon. Il reprend sa team de The Police de 1979, Walking on the Moon, le réinvente sur son nouvel album qui s'appelle My Songs, qui sera disponible demain. Et Sting sera avant ce soir l'invité exceptionnel d'Émilie Mazoyer. Musique.
Génial.
Entre 20h et 22h, interview absolument exceptionnelle. Je le répète, le mot est bien choisi. Il faudra être là ce soir à partir de 20h. Faire carrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas mal la carrière d'ailleurs de ce jeune bassiste anglais qui s'appelait Sting quand
oui,
il a démarré.
Oui, pas mal.
Pas mal du tout. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Pour conclure cette émission, nous avons avec nous Boris. Bonjour Boris, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Boris?
J'ai 23 ans et je vous appelle de la ville de Poitiers.
D'accord, alors vous dites que pendant vos études, vous vous êtes laissé guider par des choix sécurisants, rassurants, c'est-à-dire?
Voilà, tout à fait. C'est qu'en fait, au moment des choix d'orientation professionnelle, comme beaucoup de gens, je pense, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire.
Oui.
Du coup, je me suis un petit peu laissé guider par une carrière sécurisante.
Et alors, qu'appelez-vous une carrière sécurisante? Parce que vous étiez brillant à l'école, et quel élève vous étiez, quel étudiant vous étiez?
Non, j'étais un étudiant, tout ce qu'il y a de plus, classique. Hein. J'avais des bons résultats, je travaillais, mais c'était pas exceptionnel non plus.
Mm-hmm.
Mais au-delà de ça, ce qui m'a poussé en fait dans l'aspect sécurisant que j'évoquais tout à l'heure, c'est voilà, je voulais un métier qui rapporte bien financièrement, qui apporte une stabilité de l'emploi. Enfin, c'était ce que je recherchais avant, auparavant.
C'était ce qui vous sécurisait, hein, ces notions de bien gagner sa vie et de pouvoir préserver son emploi. Finalement, peut-être l'administration, en tout cas gravir les échelons dans l'administration, aurait été un métier qui vous aurait sûrement attiré.
Bah, au début, c'est cette notion voilà, de réussir sa carrière, monter les échelons petit à petit, bien gagner sa vie. Et, c'était la notion que j'avais de réussir sa carrière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai pris conscience de certaines choses.
Alors justement, on va en parler, puisque très jeune, vous avez eu des responsabilités. Mais dans l'entreprise, hein, mais ce milieu de l'entreprise ne vous a pas plu. Alors, dans quel type d'entreprise étiez-vous et qu'est-ce qui ne vous a pas plu ?
En fait, mes premières expériences professionnelles, ça a été dans des entreprises, dans des gros groupes.
Oui.
Typiquement, c'était banque et assurance. Mmh. Je travaillais dans des services de ressources humaines, voilà, au niveau du siège social. Et ce qui ne m'a pas plu, en fait, c'est le fonctionnement du salariat, si je puis dire. Parce que j'étais typiquement dans ce qu'on appelle le métro boulot-dodo, c'est-à-dire du lundi au vendredi, je me levais tôt, je travaillais toute la semaine, et j'avais vraiment le sentiment de vivre uniquement ma vie, seulement le week-end. Et ça, sur le long terme, ça commençait à être pesant pour moi.
Vous vous êtes lassé, et j'ai l'impression un peu d'entendre Anna, que l'on avait au début de cette émission. Alors, finalement, votre carrière a trouvé un sens dans celle des autres, puisque vous avez eu l'idée de lancer votre propre entreprise, celle d'accompagner des personnes, justement, dans leur carrière. Faire carrière, alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? C'est à travers cette entreprise aujourd'hui ? C'est à travers le fait de s'occuper des autres ?
Bah, aujourd'hui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai réussi à trouver un juste milieu, en fait, professionnel, avec mes valeurs qui sont personnelles aussi. Moi, j'ai toujours voulu aider les autres.
Oui.
Et puis, les questions que je me suis posées moi-même sur ma propre carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens aussi qui se posaient ces questions-là. Et j'étais assez à l'aise avec ça et ça me plaisait vraiment d'aider ces personnes-là.
Oui.
Donc, j'ai décidé de créer mon entreprise, de me lancer mon site internet sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, ça m'épanouit pleinement, comparé
alors,
avant en tout cas.
À quel âge réellement vous êtes mis à votre compte et depuis combien de temps maintenant ?
Je me suis lancé à 23 ans.
Oui.
Et là, ça fait seulement 6 mois là.
D'accord. Et dès le début, vous avez senti que ça prenait ?
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, pendant mon dernier contrat de travail, quand j'étais encore salarié, j'ai voulu tester avant de me lancer, faire ce métier-là d'accompagnement de manière bénévole, si je puis dire, et pour voir si ça me plairait sur le long terme, quoi.
Mm-hmm.
Et j'ai essayé, ça m'a plu, et quand mon contrat s'est terminé, vu que c'était un CDD, je me suis dit, il faut que tu essayes cette aventure-là, il ne faut pas que tu aies de regrets, quoi.
Banco, et vous avez bien eu raison, puisque aujourd'hui, au bout de 6 mois, en tout cas, le Boris qui cherchait la sécurité, eh bien, est devenu un peu philanthrope, mais j'ai l'impression que vous avez, vous aussi, donné du sens à votre carrière.
Exactement.
Alors, bravo et merci beaucoup pour votre appel, votre témoignage cet après-midi sur notre antenne. Merci aussi à Anna, à Richard, à Marianne de nous avoir partagé leurs expériences de vie et à Thomas Baligan pour ses éclairages. Faire carrière, voilà une expression qui n'a pas le même sens pour tout le monde, on l'a entendu, et qui évolue dans le temps, on l'a vu. Pour qu'une carrière soit épanouissante, il faut qu'elle soit en adéquation avec vos aspirations, avec votre personnalité. Faire carrière, ce n'est pas toujours manager ni gravir les échelons, mais c'est être au bon moment, au bon endroit, comme nous l'a dit notre expert du jour. Vouloir à tout prix faire carrière peut cacher un mal-être, un manque de reconnaissance, un besoin impérieux d'exister, et c'est là que je rejoins Richard et que l'on trouve des personnes voulant faire carrière, vraiment carriéristes, qui sont prêtes à tout pour marcher sur les autres et dépasser. Et c'est bien évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Il faut avant tout apprendre à se connaître et puis essayer de transmettre aux autres. Et vous ferez carrière de très belle manière. J'étais ravi de passer cette heure avec
moi
vous
aussi.
Et on peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Mais oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on l'a dit que le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, c'était le leur aux auditeurs qui nous écoutent?
Bah, bien sûr.
Il faut le redire alors. Vous n'hésitez pas à échanger.
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à échanger. Et puis voilà, à partager surtout parce que tout le monde n'est pas au courant autour de vous qu'il y a un groupe de parole Facebook.
Et vous discutez entre vous et on en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors continuez évidemment. Et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des troubles de la sexualité et de leur impact sur le couple. Si vous avez des problèmes d'impuissance ou d'éjaculation précoce, si vous n'avez plus de libido et que cela vous pèse, si vous souffrez de vaginisme, que vous avez vraiment du mal pendant les rapports sexuels, eh bien appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là, bien évidemment, avec Combline pour vous écouter. Oui. Il est bientôt 16h, puisqu'il est 15h54 et à 16h, oui, vous allez retrouver deux tontons flingueurs avec un petit côté éclectique aujourd'hui, Karl.
Ah, mon cher Olivier, aujourd'hui, la grâce est incarnée par Julie Ferrier. Quant au savoir, il est incarné par le paléontologue Yves Coppens.
Karl Zéro et ses tontons flingueurs, c'est à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et bien évidemment, je serai très heureux de vous retrouver demain à partir de 15h. Au revoir, Omblin.
Au revoir, à demain.
Au revoir, tout le monde. À demain.